Et donc ce soir, nous organisons donc au cours de ce week-end l'inauguration de locaux de ce qu'on appelle la Sangha Loka, c'est-à-dire le groupe de pratiquants qui se sont regroupés à partir des années 2003 dans la région, pratiquants qui avaient des contacts, des suivis, une mise en place de pratiques auprès de l'Institut Karmali, qui est dirigé par Rinpoche, qui est là debout, en train de fermer son portable. Et que nous avons sollicité pour cette inauguration de locaux l'association du Sangha Loka de Reims a deux activités. Une activité qui est traditionnelle, les enseignements tels qu'ils sont transmis dans la voie Rime, et Rinpoche va vous en parler quelque peu. Et puis une autre approche tout à fait laïcisée, ouverte à toute personne, en dehors de tout contexte culturel, les ateliers de pleine présence. Et dans cette activité, les travaux qui sont conduits sont suivis par notre ami Arnaud Carret, qui est à côté, qui était psychologue chercheur à l'INSERM et qui nous regarde et évalue les points forts, les points faibles et apporte un regard scientifique avec les outils dont il a la maîtrise et nous renvoie les points à améliorer et nous invite à rectifier ce qui pourrait l'être dans cette approche tout à fait laïcisée. Nous allons, si vous le voulez bien, en laissant la parole à la Madame Rinpoche, de reprendre l'histoire de ces protocoles et comment ils se situent, comment ils sont mis en place dans les deux voies, la voie traditionnelle et la voie, on pourrait dire, occidentalisée et visant à prendre en compte tel ou tel type de symptômes. Donc, il y a maintenant de nombreux protocoles qui ont été mis en place. Nous allons voir ça rapidement ce soir. Et puis, ensuite, la discussion sera ouverte. Et il y a dans la salle, d'ailleurs, des personnes qui ont fait cette expérience, d'autres qui sont en train de la faire. Et Arnaud pourra nous apporter son regard en l'état actuel des études qui sont conduites. Et puis vous aurez la parole, bien sûr, pour toute question, demande de précision, interrogation. Tous les portables étant fermés. Écoutez, je vous laisse la parole. Sauf le mien.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour notre rencontre de ce soir. Autour du thème de la mindfulness, de sa pratique et de ses bienfaits. Mindfulness, le terme anglais se dit en français pleine conscience ou pleine présence. Pleine présence ou pleine conscience. Nous verrons ces dimensions médicales, thérapeutique, nous verrons ses dimensions spirituelles. D'abord, qu'est-ce que la pleine présence? La pleine présence est un état cognitif ou un état spirituel, un état de l'esprit, un état de la cognition. Et une première remarque, je notais que cognition et esprit peuvent être considérés comme étant très proches. Je n'irai pas jusqu'à dire synonyme. Nous verrons, c'est un point qui peut être un petit peu délicat, mais en tout cas, il s'agit d'un état cognitif, celui d'une qualité d'attention délibérée, relaxée, ouverte et empathique. Alors, nous utilisons pour décrire ce dont il s'agit un sigle qui est parole. Pour présence, attentive, relaxée, ouverte, lucide et empathique. Donc, qu'est-ce que mindfulness? C'est cette qualité de présence. Attentive, relaxée, ouverte, lucide et empathique. C'est un état cognitif qui est naturel. C'est un état cognitif naturel que l'on découvre et que l'on peut apprendre à cultiver, à intégrer dans sa vie, dans son expérience. Et cet état est doté de plein de qualités. Ce sera la deuxième partie de notre propos. Alors, c'est un état naturel. Et je voudrais commencer par insister sur ce point, car étant naturel, c'est aussi un état universel, un état d'attention sans tension, d'attention ouverte et dégagée. Ce sont les qualités naturelles et universelles de cet état qui font sa dimension, disons, laïque ou non confessionnelle. L'attention ouverte est un état que nous pouvons tous trouver, vivre, et qui n'a rien à voir avec une attitude religieuse, confessionnelle, et encore moins une croyance. Donc, il s'agit d'une pratique naturelle, universelle, non confessionnelle et laïque. bien que ce soit ainsi une pratique complètement non confessionnelle, je dis une pratique. Par pratique, ici nous entendons un entraînement. Donc on pourrait dire une pratique de méditation. Le terme méditation est très mal compris, généralement en Occident, et n'a rien à voir avec la définition du dictionnaire. Hein, si vous regardez méditation dans votre dictionnaire français, vous verrez réflexion profonde, considération, méditation de Descartes, méditer sur un psaume, etc. Voilà. Si nous parlons de méditation en relation avec la pleine présence, c'est simplement pour dire la pratique de la pleine présence, l'entraînement à la pleine présence. Qu'est-ce que la méditation ? C'est la découverte et l'entraînement en l'état, à l'état de pleine présence. Point. On n'est pas obligé d'utiliser méditation. On peut parler simplement d'entraînement. Et dans le contexte oriental, ce que l'on entend par méditation, dans la tradition du Bouddha, dont je suis un représentant, est cet entraînement. Et il ne s'agit pas de fabriquer un état mental particulier qui serait induit, mais de découvrir un état cognitif d'attention lucide, vigile, relaxé, qui est naturel. Et de cultiver cet état, de s'y entraîner et de vivre, de le vivre. Simplement, le plus possible, ce qui fait que c'est aussi un art de vivre. Et c'est aussi une pratique spirituelle. Je dirais même plus, c'est le cœur et le fondement de toute pratique spirituelle authentique. Le cœur et le fondement de toute pratique spirituelle authentique et en même temps une pratique 100% laïque. Donc, il est juste, de ce point de vue, de parler d'une spiritualité laïque, universelle et naturelle. Dans la tradition du Bouddha, cette pratique de la pleine présence est le cœur de la transmission. Et tous les aspects, disciplines, d'expérience, vont dans cette direction de pleine présence. Qui n'est pas du tout une expérience banale, comme on aurait vite tendance aujourd'hui à le considérer. Il y a aujourd'hui une sorte de mode, la pleine conscience, mindfulness à toutes les sauces, et les coachs s'en emparent, et les officines pullulent. c'est un problème. Mais dans sa dimension profonde, la pleine présence est la présence d'immédiateté. L'immédiateté. On entend par immédiateté ce qui est immédiat dans le double sens du terme, de direct et d'instantané. L'immédiateté instantanée, l'état cognitif de l'expérience d'instantanéité immédiate. Et c'est ce que l'on nomme présence. Et il se trouve qu'habituellement, nous ne sommes pas présents. Habituellement, nous sommes dans notre mental, nous ressassons des choses du passé, tout ce qui se dit, ou nous anticipons des choses de l'avenir, ou même nous pensons au présent. Mais nous ne sommes pas dans cette véritable présence. Pris dans le passé, dans l'avenir, ou même habitant sur le présent. La véritable présence authentique dans sa dimension essentielle de présence d'instantanéité immédiate, est le cœur de toute spiritualité authentique. Et c'est aussi ce que l'on nomme l'état de non-dualité. L'état de non-dualité, un terme que l'on emploie beaucoup dans la spiritualité, signifie de ne pas être deux, signifie de ne pas être dans la conscience duelle. Alors, la conscience habituelle est un processus cognitif duel, au sens où l'on est conscient de quelque chose. Je suis conscient de. Je sujet. D'objets, il y a cette relation dualiste, sujet-objet, qui est le propre de la conscience habituelle. Sujet et objet se posant l'un par rapport à l'autre, même dans une forme de détermination réciproque, constitutive de l'expérience dualiste, duelle. La pleine présence n'est pas un état de conscience habituel, comme nous venons de le décrire. Ce n'est pas un état de conscience duelle, c'est un état de présence non duelle. Qu'entend-on par présence non duelle? On entend de vivre l'expérience sans séparation, en étant, en faisant corps avec l'expérience, dans une incorporation de l'expérience. Incorporation signifiant de faire corps, d'être un, non deux. Donc, cette qualité de présence non-duelle, d'incorporation. Donc, il y a beaucoup d'états et d'étapes dans la découverte et la réalisation de la pleine présence. L'autre jour, on me posait la question, et rapidement, comme ça, on peut en compter au moins 33, voire beaucoup plus éventuellement. C'est dire qu'il y a là quelque chose de très subtil et qui serait erroné de prendre la notion de présence comme quelque chose de banal. C'est quelque chose d'ordinaire, parce que naturel, mais d'une ordinarité extraordinaire. Cela dit, c'est une expérience que l'on peut tous pratiquer, que l'on peut tous découvrir, et qui fait du bien. Donc, il y a des méthodes pour découvrir et cultiver cet état. On apprend la pleine présence au corps. Et quand je dis apprendre, ici, c'est sentir. Alors, le propre de la présence est de ne pas être mental, mais d'être sensitif. Donc, l'on sent la pleine présence au corps, qui est sentir son corps. La pleine présence au souffle, sentir le souffle. Être un avec son corps, être un avec son souffle. Puis, la pleine présence à l'environnement, aux sensations de l'environnement visuel, auditif. Pleine présence ouverte aussi, de l'ouverture, de l'ouvert, dégagé. Il y a différents aspects. Et ce qui se résume en deux qualités essentielles qui sont la présence attentive et la présence ouverte. Mindfulness et awareness. Mindfulness, présence attentive. Awareness, présence ouverte. Il y a différentes écoles de traduction. En tout cas, c'est clair ainsi. Donc, présence attentive, attention. Vigilance, lucidité, présence. Et aussi présence ouverte, une ouverture sensorielle, une ouverture des sens, une pleine présence des sens. On utilise beaucoup pour pratiquer, s'entraîner, le souffle. Et la pleine présence au souffle est un aspect central de la pratique. Tout à l'heure, nous ferons un moment de méditation, si vous voulez, ensemble, et nous utiliserons la respiration. Lorsque l'on cultive la pleine présence, l'on est pleinement à ce que l'on fait. 100% à ce que l'on fait. 100% dans l'instant. Et ce n'est pas du tout un état airy-fairy, un état vaporeux ou un état désincarné. C'est l'état dans lequel on est tout à ce que l'on fait et dans cette présence, dans une aptitude optimale, dans l'optimum de nos ressources. Récemment, il y a eu un article dans Le Monde qui était une reprise, un article du New York Times, qui, avec des interviews d'un certain nombre de jeunes, avec des Googlers, des employés de Google, et d'autres de quelques start-up californiennes, qui exprimaient justement, qui sont devenus pratiquants de mindfulness, et qui expliquaient comment cela leur permet finalement de mieux travailler. Alors, on peut discuter de l'utilisation de telles méthodes pour mieux travailler, mais si. Et quoi que l'on fasse, ça permet de mieux le faire. Alors, autre exemple intéressant, lorsque nous avons fondé Open Mindfulness Institute, l'Institut de la présence ouverte, nous avions d'abord l'idée de le nommer International Mindfulness Institute. Et nous sommes allés sur Google et on est tombé, ça existait déjà, zut. Et nous sommes allés voir, c'était l'armée française, et on a vu des militaires très bien habillés, tout qui, effectivement, c'était des pilotes de chasse à qui on apprenait la pleine présence pour pouvoir être dans une disponibilité et une efficacité optimale en situation de combat, sans stress et dans une disponibilité, une réceptivité totale. Alors, on peut aussi discuter du bien fondé de l'utilisation de ce genre d'approche dans l'armée, mais en tout cas, ce sont des exemples de ce que cet état a de pertinent en termes d'optimisation des ressources personnelles et d'une attitude d'attention ouverte sans stress. Le stress vient de la relation aux événements. Et dans la pleine présence, la relation se trouve gérée dans l'immédiateté et elle libère du stress. Alors, on a connu et on connaît la pleine présence, pleine conscience, mindfulness, beaucoup pour le traitement du stress. Hein, la MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Donc, John Kabat-Zinn a commencé il y a une trentaine d'années, qui maintenant s'est largement diffusé de par le monde. Mais si le stress est bien la réduction du stress, voire la dissipation du stress, sont bien des effets réels, ce n'est qu'un aspect des qualités de la pleine présence. En Orient, la pleine présence est aussi l'état du samouraï, qui est tout présent, et sens ouvert, disponible, sans peur. Dans une attention panoramique, complète, et prêt à tout. Au sens où il n'est pas pris par quoi que ce soit. S'il était en train de penser à sa belle ou à sa maison, il serait absent et il risquerait d'être surpris. S'il était obnubilé par la droite, il pourrait être attaqué par la gauche. Si c'était par la gauche, par la droite, etc. Donc, une présence ouverte et dégagée. La pleine présence a aussi des qualités médicales. On dit quelquefois un corps sain dans un esprit sain, et il y a une relation entre la santé du corps et la santé de l'esprit. Mindfulness, pleine présence, étant l'état d'esprit sain par excellence, sain, santé, bien que ce puisse aussi être un état d'esprit sain avec T, mais sain, santé nous suffit. C'est l'état dans lequel l'on a la capacité de bien gérer ses émotions, de bien gérer ses pensées et ses émotions, sur un mode non conflictuel. Tout ce que l'on nomme le travail avec les émotions, la pratique avec les émotions, est essentiellement une pratique de pleine présence. L'émotion, dans l'état de pleine présence, se trouve transformée, transmutée, libérée. En tout cas, il y a une santé de l'esprit qui est cet état cognitif ou l'état cognitif de pleine présence et l'état de santé de l'esprit. C'est un état d'expérience aussi de la réalité. De la réalité directe, immédiate, dans le retrait des projections. Et c'est cet état cognitif, spirituel, amène aussi un bon état de santé physique. Et il apparaît que la pleine présence, pleine conscience, favorise, on dit certaines fois, l'immunodéfense, les défenses immunitaires, mais en bref, une santé du corps, un terrain sain et par la même résistant. Donc, la pleine présence est bon pour la santé et les personnes qui la pratiquent, la vivent, l'intègrent en ont des bienfaits évidents en termes de santé. C'est pourquoi d'ailleurs la pratique de la pleine présence commence à être recommandée par le corps médical et même dans certains pays remboursé par la sécurité sociale. Voilà une piste intéressante d'ailleurs pour sauver la sécu française. Euh, cela a des bienfaits aussi sur la tension artérielle, sur... Tout à l'heure, on va voir une présentation de Jean-Claude Chaise et d'Arnaud Carré qui vont nous parler plus en détail des bienfaits vus d'un point de vue plus médical. Ce sur quoi je voudrais, peut-être avant de leur passer la parole, conclure, on aura un moment de parole pour toutes les questions que vous pouvez avoir. Et c'est l'aspect central et fondamental de cet état, qui est finalement aussi un état de bonté. Alors, tout à l'heure, dans la définition que je vous ai donnée, parole, il y avait empathie, si vous vous souvenez. La pleine présence est aussi un état de pleine empathie, de pleine participation, de non-séparation, d'être un en communion avec l'autre. On peut dire, on peut parler d'un état de communion, on peut parler d'un état de compassion, ou simplement un état d'empathie. Et l'empathie est le fond de la bonté. Si l'on est véritablement dans l'empathie, l'on est avec l'autre, et l'on ne fera pas à l'autre ce que l'on ne voudrait pas qu'il nous soit fait. Et dans l'état d'empathie, on pratique naturellement ce que l'on nomme souvent la règle d'or, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais qu'il te soit fait. Donc, pleine présence a cette qualité d'empathie, a cette qualité d'intelligence, d'efficacité, et se trouve finalement au cœur de la dimension universelle de l'éthique et de la spiritualité. Laïque. Donc voilà. À ce point, je voudrais passer la tribune à Jean-Claude. Et à préparer quelques documents suite à son expérience, sans doute qu'Arnaud complétera, et ensuite nous prendrons un certain nombre de questions, de considérations. Venez ici, sans doute, pour que.
Je vais prendre le temps d'ordinateur. Ah, et que ce soit pas
devant. Tu prends le micro, par contre.
Oui.
Je vais vous présenter en quelques planches ce que 23 personnes, ce que 23 personnes ont exprimé à la suite d'un cycle, donc deux cycles de 8 semaines, à raison de 3 heures d'entraînement ensemble, de présentation, entraînement pratique. Et les personnes qui se sont engagées dans cette expérience avaient aussi comme consigne d'essayer tous les jours, autant de faire ce peut, de mettre en application au quotidien ce qui leur a été présenté. Et très rapidement, ça permettra d'engager après la discussion, puisque Arnaud présentera en quelques mots l'état de l'étude qu'il suit cette fois-ci, avec des personnes qui ont déjà une expérience de la pratique méditative et avec qui ont à leur tour suivi cette fois-ci une semaine entière de pratique. Donc là, ce sont des personnes qui ont suivi à raison de plus d'une fois par semaine, je disais, deux fois par semaine, soit une fois une demi-heure, soit une fois trois heures, l'ensemble du protocole, et voici ce qu'elles nous en ont dit à la fin de ces 8 semaines. Donc, qu'est-ce que le programme de pratique m'a apporté? J'ai regroupé leurs réponses sur le plan méthodologique, que vous voyez, efficacité aux effets renouvelés, approche différente des problèmes, bien sûr les bases techniques de pratique méditative, une entrée plus rapide dans l'ouverture et l'assise, l'ouverture et l'assise telles que Rinpoche nous les a décrites tout à l'heure, une meilleure compréhension du fonctionnement de la production des images et des idées mentales. D'autres personnes ont exprimé que cette programme de pratique leur avait apporté des outils et des moyens concrets pour être en contact avec eux-mêmes, pour aborder des moments de discussion présumés pénibles, pour respirer et découvrir les bienfaits de la respiration consciente en cas de moments de panique ou d'angoisse, des outils et des moyens pour être en pleine présence lors de moments difficiles au quotidien, d'utiliser le body scan au moment du coucher. Le body scan, c'est une pratique où on porte son attention sur les différentes parties du corps de façon tout à fait structurée de la pratique. Et des outils et des moyens concrets pour approfondir et bénéficier des exercices avec un S, c'est mieux. D'autres personnes ont exprimé ce qu'ils avaient découvert en suivant ce programme et qu'il aurait été possible d'avoir du recul par rapport à leur précipitation, d'avoir plus de distance dans les cas des situations vécues, de prendre conscience du bonheur quand il se présente, d'apprécier les moments sans jugement positif ou négatif. J'ai découvert qu'il était possible d'être seul avec soi-même et de s'autoriser à laisser surgir tout ce qui avait été enfoui depuis des années, d'avoir un peu plus de sérénité dans son épisode dépressif, d'être plus posé dans son travail, plus attentif, de ramener le calme en eux-mêmes lorsque les difficultés s'annoncent, et de se poser plus souvent et à prendre conscience du moment présent. Et puis, ce qui a été expérimenté, un apaisement, plus de sérénité, plus de quiétude à l'instant présent, une mise à distance, la paix, une vraie paix intérieure, plus de neutralité, le bonheur de chaque instant, la confiance, l'essai d'une pratique pouvant m'apporter du repos. Et pour conclure, ce qui était décrit comme étant appris, à avoir de la retenue dans son jugement, à évacuer certaines angoisses en comprenant qu'elles n'ont aucune raison d'être, à se faire confiance et à porter un autre regard sur les relations à eux-mêmes et aux autres, à savoir être présent à ce qui était ressenti au moment où cela se produisait, à être attentif à ce qui est au moment présent, à prendre conscience des souffrances lorsqu'elles m'assaillent, disait la personne, et aussi du bien-être que cela apporte à les laisser se détendre dans l'expiration, à prendre du temps pour soi-même, et que la méthode pouvait s'appliquer à n'importe où, à n'importe quel moment. Voilà, très rapidement, les commentaires qui ont été portés par ces personnes qui n'avaient jamais pratiqué jusqu'à présent, qui découvraient ce qu'était éventuellement soit de s'asseoir en tailleur, soit de s'asseoir sur une chaise bien calée, et de découvrir ce qu'était le protocole. Je vais laisser avoir la discussion à Arnaud quelques points de ses recherches sur un groupe de 40 personnes. mais déjà pratiquante.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais déjà vous parler de, effectivement, des premières choses que l'on a par rapport à cette, cette expérimentation qui est menée, qui est un suivi de cohorte de personnes, comme l'a dit Jean-Claude, qui ont déjà une expérience et qui sont venues pendant une semaine, c'est ça Jean-Claude, pour poursuivre leur pratique. Et puis ensuite, j'aimerais pouvoir dire quelques mots, non pas en réponse, mais en écho et en complément de ce qu'ont pu dire Jean-Claude ou la Madeleine. Et puis j'espère que dans la circulation de la parole, nous aurons aussi l'occasion d'enrichir deux, trois points. Ce que nous avons envisagé avec le suivi des personnes déjà expérimentées, ce que nous avons envisagé, c'est premièrement un premier objectif qui est de, quelque part, essayer de légitimer l'approche qui est celle de la pratique de la pleine présence, de la pleine conscience. Mais je sais que Lamar Rinpoché est très attaché à la notion de pleine présence, et je pense qu'il a raison, puisqu'il y a un sens derrière et une conceptualisation sur laquelle on pourra revenir qui est importante. Et pour cela, eh bien, si c'est une technique qui peut apporter quelque chose du point de vue du bien-être, et qui dit apporter quelque chose du point de vue du bien-être va aussi nous amener à parler d'éléments qui font partie du champ de la psychothérapie, eh bien toute thérapie doit être évaluée. Et donc, ce ne sera peut-être pas vous surprendre que de vous dire que, ici et maintenant, en France, on a peut-être moins d'avance, de manière élégante de ne pas évoquer le mot retard, que d'autres pays qui d'ailleurs effectivement ont généralisé la pratique dans les systèmes de soins, aussi dans les systèmes éducatifs, pour des raisons tout à fait, me semble-t-il, justifiées. Mais aujourd'hui, on veut essayer de valoriser cette pratique, d'en montrer les bénéfices. Donc il faut l'évaluer, et pour l'évaluer, il faut des outils. Donc l'un des premiers objectifs de cette étude, avec la cohorte déjà expérimentée, c'est de voir si les personnes expérimentées produisent des réponses en accord avec les concepts de mindfulness, de pleine présence, de pleine conscience, de méditation, d'attention ouverte, pour mettre les mots que l'on veut derrière, mais qui correspondent en fait à ce qui est reconnu, communément partagé, et ce qui est l'expérience d'autres pays, par exemple. Donc déjà, le premier intérêt, c'est de poursuivre la validation d'outils pour pouvoir évaluer les bienfaits. Ensuite, il y a plusieurs questions qui sont posées. C'est peut-on avoir des outils qui permettent de bien discriminer, c'est un terme qu'il faut prendre de manière aussi sans attention, sans jugement, de bien identifier les compétences, les capacités en termes de mindfulness, et ces outils sont-ils capables aussi d'évaluer les changements? Puisque si on veut défendre l'idée, c'est une hypothèse que l'on formule, que l'on choisit de faire, si on veut défendre l'hypothèse qu'il y a un intérêt thérapeutique, qu'il y a une stratégie thérapeutique à partir des concepts issus de la méditation et du mindfulness, il faut voir si la pratique peut être mesurée, si on peut en extraire des effets. Donc, c'est à ça que, en fait, se sont prêtés de manière tout à fait bienveillante et sur la base du volontariat le plus complet, des personnes dans une expérience assez récente. Il s'agit de quelque chose d'extrêmement cadré au niveau scientifique, c'est-à-dire que, en tant que personne impliquée du traitement des données, je ne sais pas qui a participé, je ne sais pas qui sont les participants, et c'est très bien ainsi. Mais néanmoins, j'aimerais leur adresser un remerciement, puisque ils ont fait partie d'une première vague de personnes ayant participé à cette expérimentation. Et étant dans les premiers, en fait, ils ont suivi un protocole d'évaluation plus lourd que ceux qui y participeront par la suite. Pourquoi ? Parce que, je vous le disais, on a peut-être moins d'avance que d'autres, donc il faut essayer de tester un maximum d'outils et trouver ensuite les outils qui vont nous permettre de mieux évaluer ce qu'est la pratique, ce que sont ses bienfaits, ce que valent sa stabilité dans le temps. On a déjà un certain nombre de données dans lesquelles s'ancrer, au niveau, au niveau international, dans différents spectres de la pathologie et de la santé mentale, eh bien, nous allons pouvoir offrir une contribution francophone dans ce domaine. Alors, je vais vous dire quelques mots, comme promis, des premiers résultats. Néanmoins, je me dois de prendre une certaine vigilance. Ce que je peux vous en dire, c'est déjà sur un échantillon restreint, alors restreint mais tout à fait honorable, puisque un peu plus de 40 protocoles sont exploitables à l'heure actuelle. Certains publient des études d'efficacité, d'efficience, de stratégie thérapeutique avec moins que ça, et même dans le domaine de la pharmacothérapie, hein, pour vous en donner un exemple, il peut être des fois assez particulier de lire les notices des médicaments. Des fois, ça déclenche les symptômes qu'on est en train de vivre. L'expérience le montre assez bien dans le cadre de ce qu'on appelle l'hypochondrie. Mais ce à quoi je fais référence ici par rapport aux notices, c'est une fois de voir qu'un médicament n'avait pas d'effet indésirable dans le cadre de la grossesse. Tant mieux pour la maman, tant mieux pour le bébé. Par contre, quand vous regardez le détail de l'étude de validation, c'était 20 femmes enceintes qui avaient testé le médicament. Parce que 20 femmes enceintes représentent la totalité des femmes enceintes susceptibles d'être sous un traitement. Vous voyez, donc il faut faire attention par rapport aux tailles de nos cohortes, qui correspondent ensuite à des tailles d'effets et des efficacités, bien entendu, assez différentes. Donc, c'est un point sur lequel je veux déjà mettre une première nuance. Il y a une cohorte intéressante, mais je suis tombé il y a peu sur une étude canadienne qui avait suivi l'efficacité de la pleine présence avec différents protocoles, notamment en lien avec un centre bouddhiste qui avait été mis à concours dans cette étude. Et au bout de quelques années, ils avaient pu extraire des données assez intéressantes, mais sur à peu près 500 personnes. Vous voyez que des 40 ou 500, quelques efforts sont encore à fournir. Et là, dans ce que je peux vous communiquer, c'est sur des petits groupes au sein de ces 40. Alors, il y a deux types d'évaluations qui peuvent être faites. Des évaluations que l'on rattache au domaine de l'état et des évaluations que l'on rattache au domaine du trait. Concrètement, je vais vous en donner un exemple dans le cadre de l'anxiété, qui est un domaine que j'ai traité dans le cadre de mon parcours. L'anxiété va exister sous deux dimensions, l'anxiété état et l'anxiété trait. L'anxiété état, c'est l'anxiété du moment face à une menace. On peut facilement parier, nous sommes à Reims, que si vous vous baladez en centre-ville et que d'un coup, un bus arrive subitement sur vous, eh bien, une certaine réaction anxieuse va vous faire repérer le bus très rapidement, va vous faire sursauter, et peut-être, si vous étiez malencontreusement pas sur le trottoir, mais en train de mordre sur la route, vous allez remonter sur le trottoir. L'anxiété aura été mobilisée sur l'instant par rapport à une menace. Si quelqu'un s'amuse juste derrière vous à venir faire éclater un ballon, il se peut que vous ayez une réaction anxieuse à ce moment-là. Ça, c'est vraiment la réponse à une situation. Et puis, il y a la notion du trait, T-R-A-I-T, comme un trait de personnalité. Et dans le domaine de l'anxiété, ce n'est pas, par exemple, l'anxiété ici et maintenant, pour prendre un terme qui parle assez bien dans le domaine de la pleine présence, mais c'est la prédisposition générale à développer une réaction anxieuse. Et bien, dans le domaine de la pleine présence, on a la même distinction. La capacité de pleine présence dans le cadre d'une pratique, dans le cadre d'un exercice, ça va être l'état, et puis le trait, c'est-à-dire que dans la population, il y aurait une certaine variabilité, faisant que des personnes, d'emblée, vont être plus à même d'être dans des états de pleine présence, d'attention ouverte, d'écoute de leurs sensations sans pour autant les juger, et d'autres eh bien, seront moins dans cette capacité. Donc on essaye de voir quelles sont les réactions de nos participants sur ces deux dimensions. Alors on s'attend qu'effectivement, ils aient des scores plutôt élevés, puisqu'ils ont déjà une pratique. Et ensuite, cela pourra être transposé auprès de personnes qui n'ont pas encore de pratique, et il pourrait être intéressant de voir si les états sont meilleurs après par rapport à avant, et si le trait lui-même a bougé. Un trait n'est pas censé bouger, Mais on s'est rendu compte, sur ces premiers résultats, que même après une pratique d'une semaine chez des gens expérimentés, la capacité à être dans le trait, c'est une compétence stable en termes de mindfulness, de pleine présence, pouvait être augmentée. Et c'est quelque chose qui a été retrouvé dans un tout autre domaine, qui n'est pas celui de questionnaire auquel les personnes répondent, ce qui est donc le domaine de la psychométrie, mais qui a été retrouvé dans d'autres domaines avec d'autres méthodologies, notamment dans le cadre de l'imagerie cérébrale, où une certaine réorganisation, une certaine plasticité cérébrale pouvait apparaître chez des personnes qui avaient un entraînement, assez soutenu et qui avait déjà une certaine ancienneté. Enfin, sur des mesures, je vous le disais, d'état, et ça c'est particulièrement intéressant, mais c'est à prendre avec toute la vigilance nécessaire, j'insiste là-dessus, mais entre le début de la pratique et la fin de la pratique, des indicateurs de stress, d'anxiété, de dysphorie, c'est-à-dire des états prodromiques ou subcliniques d'affectivité dépressive, étaient améliorés. Donc on voit bien là l'intérêt qu'il peut y avoir, puisque regarder quelles sont les prévalences des troubles anxieux, des troubles reliés au stress, des troubles émotionnels et de la dépression, on voit bien qu'il y a là rapidement un moyen d'agir. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les institutions scientifiques, mais, et pour certaines, dont l'INSERM, qui sont au service de questions sociétales, cherchent à mieux comprendre les mécanismes qu'il y a dans la pratique de la pleine présence, du mindfulness en général, puisqu'on peut rapidement en tirer un bénéfice et peut-être en faire une indication thérapeutique dans certains cas. Là aussi, avec la distance et la vigilance nécessaires, puisqu'il ne s'agit pas de dire qu'il y a là un remède miracle à moult problématiques, mais en tout cas une stratégie d'action rapide, qui en plus a un avantage, c'est qu'elle est située dans un contexte relationnel, dans un contexte humain, et on sait bien aujourd'hui que dans beaucoup de troubles liés à la régulation des émotions, le facteur socio-relationnel et humain est au premier plan. Donc des résultats tout à fait encourageants, dont j'espère pouvoir vous donner dans finalement assez peu de temps des compléments, à la fois sur cette cohorte et sur des cohortes qui pourraient venir enrichir la précédente. Avec plaisir que je pourrais aussi répondre à vos questions plus en détail si vous en avez.
Vous avez la parole.
Un petit peu par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est quelque chose qui me frappe et qui me frappe de plus en plus depuis quelques semaines, depuis que j'ai intégré une équipe INSERM où on s'intéresse à différentes questions. En fait, j'ai intégré une équipe qui s'appelle la santé mentale dans une perspective de santé publique. De même, on voit que le chantier est grand. Je confrontais mon point de vue avec différents collègues, d'ailleurs sans a priori, puisque pour certains, je ne savais pas quelles étaient leurs fonctions et leurs formations. On était juste réunis autour d'une même question. Et en fait, je me rendais compte qu'à un moment, nous parlions des mêmes choses, mais avec des mots différents. Et le fait d'avoir, peut-être ce qu'on pourrait appeler une sémantique différente, faisait qu'à un moment, on n'avait pas été amené à se rencontrer et à faire converger nos points de vue. Et je voulais dire notamment par rapport à ce qu'a dit Lama Denis, que dans quasiment tous les termes qu'il a évoqués, on peut y trouver une correspondance dans aujourd'hui la littérature scientifique internationale, que ce soit dans le domaine de la régulation émotionnelle, que ce soit dans le domaine de la psychopathologie, que ce soit dans le domaine de concepts cognitifs et affectifs, notamment l'empathie. Ça m'a amené à me poser une question en préparant le fait de venir voir, qui est finalement quel est aujourd'hui le concept scientifique qui est derrière celui de la pleine présence. Et il y a un terme qui est celui d'embodiment. Alors, désolé, nous l'avons encore avec un anglicisme, mais la communauté francophone traduit embodiment par incorporation. Et l'incorporation, ou embodiment, fait référence à tout ce qui est l'intégration des sensations, des perceptions, comme voilà, ce sont des entrées sensorielles de différents domaines, qui viennent de différents capteurs, la vue, l'huile, l'odorat, mais aussi de nos perceptions internes. Donc on évoque ensuite ce qui est proprioceptif, on va dans des mécanismes interoceptifs, et je me suis rendu compte que finalement, on avait là peut-être le concept théorique dans le domaine de la psychologie cognitive, dans le domaine des neurosciences, qui permettait d'aborder, mais quasiment de manière directe, ce que d'autres évoquent avec les concepts autour de la pleine présence. Et c'est intéressant parce qu'on est en train de, j'employais un terme assez peut-être un peu dur, mais on est en train de sortir d'une sorte de guerre des tranchées où il y a déjà une opposition Orient-Occident que l'on est en train de réduire. Et dans le domaine de la santé, que ce soit le domaine de la santé mentale ou celui de la santé somatique, qu'on a parfois opposé, ce qui est largement discutable, je pense que vous aurez compris mon avis sur la question du coup, on voit qu'on est en train de revenir au corps dans le domaine de la santé mentale, et on est en train de revenir à l'esprit, au mental, à la cognition, à la conscience, aux émotions, dans le domaine de la santé somatique. Et à nouveau, je pense que les concepts tels qu'ils ont été développés par la Madeleine Rinpoché tout à l'heure sont le pont entre ce qui était auparavant et par ça.
Peut-être rebondir sur l'incorporation. Tout à l'heure, j'ai utilisé incorporation. Et effectivement, en anglais, on a embodied. Et cela remonte il y a quand était-ce, une vingtaine d'années. Francesco Varela avait publié un livre, Embodied Mind. Francesco Varela est l'un des plus grands chercheurs en neurosciences, neurosciences de la cognition. Il est décédé il y a quelques années. Et c'est lui qui a fondé, avec le Dalai Lama, le Mind and Life Institute, qui est à Boston, avec le MIT, entre autres, ont conduit depuis maintenant, je crois que ça fait 20 ans, ça fait plus de 20 ans, beaucoup d'expériences, d'expérimentations sur justement l'esprit, en faisant se rencontrer des pratiquants de la méditation, disons, de la pleine présence, et des scientifiques, des neuroscientifiques et spécialistes des sciences de la cognition. Donc, embodied mind. Et en français, ça a été publié, c'est au seuil, ça s'est devenu l'inscription corporelle de l'esprit. Ouf. L'inscription corporelle de l'esprit. En anglais, c'est un embodied mind. L'incorporation. Alors, aujourd'hui, ils viennent d'inventer l'incorporation. Why not? Mais incorporation, ça va bien. Ce qui est intéressant dans cette notion, c'est que c'est rien de nouveau et c'est une notion classique de la tradition orientale et du bouddhisme. Le cheminement spirituel n'est pas une spiritualisation, c'est une incorporation. Donc, la question, le vocable spiritualité est tout à fait contestable et somme toute assez spécifiquement occidental. En Orient, dans la tradition du Bouddha, la réalisation spirituelle est une incorporation, l'entrée dans les trois dimensions de l'éveil, que l'on nomme des corps ou des dimensions. C'est l'esprit ou la conscience s'incorpore, fait corps ou s'incorpore. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations, monsieur, s'il vous plaît?
Est-ce que cette pleine présence ressemblerait à une chose que j'ai vécue il y a déjà un certain temps? J'ai suivi à une certaine époque des stages de relaxation, on appelait ça stage alpha, relaxation totale du corps. On faisait une sorte de bouddhiste calme pour relaxer chacune des parties du corps. Et à partir de ce moment-là, l'esprit évidemment était beaucoup plus libre. Et après ces stages, pratiquant ça moi-même une vingtaine de minutes tous les jours, j'ai eu le sentiment à cette époque-là que mon intuition sûrement se développait. Et je me suis rendu compte, dans certaines parties de ma vie, d'avoir la conviction à ce moment-là que je n'étais pas à ma place, pas sur le bon chemin. Alors que dans le quotidien, j'avais l'impression que j'étais à ma place. Et j'ai suivi ces intuitions, je dirais, qui me sont arrivées dans ces moments de relaxation, pour ne pas dire pleine conscience. Et un autre moment, j'étais arrivé sur. J'avais découvert un livre où on parlait de retrouver une vie antérieure. Il y avait un tout petit paragraphe qu'il suffisait d'enregistrer lui-même, après l'avoir apprécié ou pas. Ce que j'ai fait, je l'ai enregistré sur une cassette, et en relaxation totale, j'ai suivi ce texte que j'avais enregistré. Et je suis en effet arrivé sur une vie antérieure. Alors, comme disait mon frère Arnaud tout à l'heure, hasard, auquel je ne crois pas beaucoup, dans une vie antérieure qui correspondait tout à fait à ce que je vivais depuis ma naissance. En l'occurrence, je me suis retrouvé d'un coup sur un champ de bataille où un tas de corps étaient étendus. Les uns pleuraient, geignaient de souffrance, d'autres étaient morts, et tout près, le château fort, dans le château fort, les vainqueurs qui ripaillaient. Et je disais plus jamais ça. Et personnellement, je suis né en 1945, la guerre était finie, et aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est qu'une balle qui siffle à mes oreilles, et je ne me suis jamais battu de ma vie. Est-ce que ça peut ressembler à ce que vous appelez la pleine conscience?
Oui et non. La pleine présence, et notez que l'on préfère dire pleine présence que pleine conscience. Tout à l'heure, j'ai exprimé ce qu'est la conscience comme état cognitif, et la pleine présence n'est justement pas un état de conscience au sens habituel. Et c'est une remarque sémantique. Dans un état d'attention relaxée, où il y a effectivement une caractéristique alpha,
mais pas que, c'est assez complexe. Donc, relaxation, attention, lucidité, ouverture, présence. Oui. Alors, après, dans un tel état, il y a une forme, oui, d'intuition. Et l'intuition est un terme très délicat. Il y a beaucoup de... Mais c'est d'abord et surtout un état, on pourrait dire, non mental ou non conceptuel, au sens où l'on n'est pas dans la discursivité conceptuelle habituelle, dans le discours intérieur dans lequel on fait les questions et les réponses. Dans cet état non discursif, il y a, oui, une forme d'intelligence directe, immédiate, que l'on peut, qui est le sens profond, même la réalité profonde de l'intuition. Pour ce qui est des vies antérieures, c'est un sujet complexe et souvent je suis bouddhiste, alors souvent on me dit « Ah, vous êtes bouddhiste, alors vous croyez aux vies antérieures ?» Je réponds « Non, certainement pas. » D'abord parce qu'il ne s'agit pas de croire, ou plus exactement, ce qu'on dit, c'est « Alors vous croyez à la réincarnation ?» Je dis « Non, certainement pas. » C'est, il ne s'agit pas de croire et la réincarnation est un concept surtout New Age et hindouiste. En fait, il y a beaucoup de choses. Mais il y a une renaissance, mais vous disiez, conforme, dans votre cas en tout cas, à ce que vous avez vécu. Donc, on est amené dans l'état de pleine présence. Un processus, on entre dans un processus d'anamnèse, de réminiscence, d'empreintes du passé, des choses qui ont été souvent même refoulées ou niées. Qui sont restés sous la surface et qui, dans cet état d'ouverture et de relaxation, ça émerge. Ça émerge et ça se libère. La pleine présence est aussi un état de libération psycho-émotionnelle. Les choses remontent et se libèrent. On appelle ça techniquement la libération des samskaras, des empreintes conditionnantes. Donc, il y a de tels phénomènes. Après, les attribuer à des vies antérieures, voilà. Alors, c'est sûr que ça vient du passé, et donc, en ce sens, de vie antérieure. Mais les notions réincarnationnistes, avec l'âme qui transmigrerait, et la petite boîte noire indestructible qui passerait de corps en corps, ça n'est pas un enseignement traditionnel et c'est plutôt des choses, disons, New Age. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions, monsieur?
Bonsoir, désolé, c'est un peu technique, mais à propos de l'empathie compassionnelle dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que c'est plutôt une empathie émotionnelle, c'est-à-dire de type limbique? Ou alors c'est une empathie d'inférence, c'est-à-dire l'autre pense différemment de moi, et à ce moment-là c'est plutôt carrément préfrontal. Enfin, je suis désolé d'être un peu technique, mais je veux savoir si vous avez été désiré ou fonctionnel dans les états de pleine présence et en ce qui concerne cette empathie.
Il y en a eu beaucoup qui ont été faites, et justement dans le cadre du Mind and Life Institute que vous mentionnez. Je ne les ai pas précisément en mémoire, donc je ne m'y aventurerai pas dans les détails. Vous pourrez consulter, il y a une documentation très importante là-dessus. Vous pourrez consulter aussi le dernier livre de Mathieu Ricard qui a participé à ces expériences de façon active. Ça se nomme un plaidoyer pour l'altruisme, la bienveillance. On le trouve partout. Ce dont il s'agit dans l'empathie, ça n'est pas une empathie conceptuelle. L'autre est comme moi ou pense comme moi. C'est une empathie expérientielle, ou simplement d'être incorporé, ou de faire corps avec l'autre, d'expérimenter l'autre comme soi-même, au-delà de la séparation habituelle, qui fait que l'autre est un autre. Une image, un exemple que l'on utilise certaines fois pour illustrer cela, est la compassion qu'a la main droite pour la main gauche. Exemple, lorsque je me suis coupé, blessé sur ma main gauche, la main droite vient avec attention pour soigner, nettoyer la main gauche blessée, et la main droite soigne la main gauche avec grand amour et grande compassion, comme si c'était elle-même. Et lorsque c'est la main droite qui est blessée, la main gauche s'occupe de la main droite et la lave, la soigne, prend soin d'elle, là aussi avec altruisme, avec bienveillance, avec bonté, avec empathie, comme si c'était elle-même. Et donc, nos deux mains ont l'une pour l'autre une véritable empathie, un véritable amour, une véritable compassion, parce qu'elles sont incorporées, elles font partie d'un même corps et ne se vivent pas, bien qu'elles soient séparées et distinctes, elles ne se vivent pas comme étant coupées ou séparées. Et cette qualité d'empathie.
Est-ce que dans la pleine présence, on tend aussi vers l'ouverture de l'ego? C'est aussi un des objectifs qu'on peut essayer d'atteindre.
L'ouverture et le non-ego foncièrement sont des synonymes. Ça n'est pas un objectif que l'on se met parce que ce serait l'ego qui se mettrait l'objectif de disparaître. Ce serait comme de vouloir assister à son propre enterrement. Mais l'ouverture amène profondément une expérience qui est à la limite sans centre ni périphérie. Et à ce moment-là, c'est l'expérience de non-dualité ou l'expérience de non-ego. Et l'ouverture va toujours... l'ouverture ici, c'est une ouverture sensorielle. Va dans le sens de la réduction de la dualité, plus d'ouverture et moins de dualité. Et à la limite, tout ouvert et non deux. Monsieur, prenez le petit bâton de parole, s'il vous plaît.
Madame Denis, vous avez prononcé à propos de la pleine présence avec son corps, vous avez parlé du souffle.
Oui.
Et effectivement, le souffle paraît quelque chose d'essentiel dans la pratique Et symboliquement, c'est également le souffle créateur et en même temps le souffle qui fait la différence entre, enfin, tout au moins d'après Omar Khayyam, entre la foi et la crédulité, et l'incrédulité. C'est-à-dire entre la croyance et la non-croyance se trouve le souffle, dit le poète. Et j'aimerais avoir votre opinion au propos de l'importance de ce souffle dans un temps créateur, vital, et qu'il faut maîtriser dans les exercices pratiques.
Le souffle est la façon traditionnelle de parler de l'énergie. Souffle-énergie. Aujourd'hui, l'on parle d'énergie. Traditionnellement, on parle du souffle. Entendu qu'il y a beaucoup de souffle. Il y a le souffle respiratoire, mais toute énergie est dite souffle. Et le souffle-esprit, l'esprit a une nature pneumatique. Qu'est-ce que l'esprit ? C'est du souffle. Il y a dans le yoga, la pleine présence est une forme de l'apprentissage, la pleine présence est une forme de yoga au sens d'union, yoga d'unification. Et il y a dans le yoga l'utilisation du souffle qui est qui participe du corps et de l'esprit. C'est le principe du yoga, l'interdépendance entre le corps et l'esprit avec le souffle participant du corps et de l'esprit. Et exemple, si nous sommes dans un état de calme mental, cela va généralement avec un état de calme du souffle, de la respiration. A l'inverse, si nous sommes dans un état émotionnel intense, haletant et avec une respiration agitée. Donc, ce serait loin à développer, mais le souffle et l'esprit sont un. Alors, peut-être qu'à ce point, vous avez des questions ?
J'ai une petite question.
S'il vous plaît, alors, et puis après, on va faire un petit moment de méditation, s'il vous plaît.
Donc, juste une question, donc, sur Internet, de Simon de Dinan, pour faire suite au poète qui... Simon nous demande, la pleine présence n'est-elle pas déjà au programme de Rabelais et autres poètes sous d'autres vocables ?
La pleine présence, tout à l'heure, je la visais comme au cœur de toute spiritualité authentique, et même au cœur de la dimension universelle de l'éthique et de la spiritualité. Donc, elle a été sous bien des vocables, le propos de tous les sages, de tous les sages de tout temps. Alors, Rabelais, oui, mais parmi les philosophes, oui, d'Orient et d'Occident, d'Orient et d'Occident, Plotin, beaucoup de Grecs anciens, et en Orient, le Bouddha, Lao Tse, et bien d'autres. Donc oui, elle est certaine. Et chez les poètes, autant suspend au vent le La Martine sur le lac du Bourget, une suspension du temps. La pleine présence est aussi ce que l'on nomme l'éternel présent, certaines fois. C'est aussi la présence d'absence. Bon, elle a beaucoup de noms. Mais une même expérience qui se dit sous bien des noms, et aussi qui peut s'approcher de différentes façons. Mais elle est naturelle et universelle, ce que je disais tout à l'heure, et elle s'est retrouvée de tout temps et partout. Et c'est le propre même, et c'est le fond même de ce qu'on a souvent nommé la sagesse, ou l'expérience directe, l'expérience immédiate.
Mais trêve de discussion, un moment d'exercice. Donc je vous invite à bien vous asseoir. Malheureusement, ce micro dans la main, ça n'est pas très pratique, mais ça n'est pas mal. Non, le sujet. Les pieds bien au sol, les mains sur les cuisses, et de bien s'asseoir en trouvant... On peut s'adosser, on peut ne pas s'adosser. On passe en général plutôt mieux de ne pas s'adosser, mais faites comme vous pouvez. L'important étant d'être confortable, et dans une posture aussi d'équilibre. Et dans cette bonne posture, confortable, équilibrée, je vous invite simplement à sentir votre corps. Vous pouvez sentir que vos pieds sont en contact avec le sol et sentir tout votre corps comme il est. Il n'y a rien de spécial, mais simplement entrer dans la sensation corporelle, entrer dans le ressenti de ce corps, dans la présence au corps par le corps, sensation du corps, tout simplement. Et de se détendre dans cette sensation. Il ne s'agit pas du tout d'un exercice de concentration, simplement de se laisser aller et de se détendre dans la sensation de notre corps tel qu'il est. Dans cet état très simple et naturel, de remarquer le souffle, ça respire. Il ne s'agit pas de respirer de façon particulière, mais de sentir que notre corps respire. Ça respire naturellement, simplement. Et de rester dans la sensation de la respiration naturelle, du souffle qui va et vient. Rien de spécial, mais ça respire. Simple présence au souffle, à la sensation du souffle. On se laisse aller dans la sensation du souffle et on laisse être cette sensation en restant dedans, faisant corps avec le souffle, avec la sensation de la respiration. Et d'observer simplement comment c'est l'état dans lequel en mer ainsi. Et de vous inviter à ce point à un petit retour d'expérience. Commencez. Comment se sent-on? Comment vous sentez-vous? Comment était-ce? Il est important de découvrir l'expérience ainsi dans et par l'expérimentation. C'est pour cela qu'on invite à des retours d'expérience qui nous permettent de prendre conscience, de remarquer comment c'est. Observation. Veillez. Vous êtes timide.
C'est reposant,
je dirais. C'est reposant, oui. C'est vrai.
Chez moi, ça engendre une certaine quiétude.
Reposant, quiétude, oui. Ah, voilà déjà deux. C'est déjà bien. D'autres remarques?
Le fait de concentrer, de se concentrer sur la respiration amène l'esprit ne plus divaguer dans de multiples pensées.
Oui. On ne se concentre pas vraiment. Alors, le terme concentration souvent suscite une tension. C'est mieux de parler d'une présence que de concentration. Mais effectivement, en étant présent au souffle, on se désinvestit de la pensée qui se poursuit. Très important. On fera tout à l'heure un deuxième exercice, mais avant, s'il y a d'autres remarques, d'autres observations. Bon. Mais quiétude, repos, désinvestissement du mental, tout ça très important. Désinvestissement du mental et repos, quiétude. C'est un exercice que l'on peut dire de présence attentive. La présence attentive domine. Si vous voulez faire un deuxième petit exercice, cette fois-ci plutôt de présence ouverte. Les deux peuvent, présence attentive, présence ouverte, peuvent s'aborder séparément, mais sont foncièrement et finalement complémentaires et concomitants. Mais si vous voulez bien, on se remet bien assis, comme tout à l'heure. Et dans la sensation du corps, dans la sensation du souffle. Par contre, si vous voulez bien maintenant, on gardera les yeux ouverts. Et plutôt le regard un petit peu en hauteur, là où il n'y a rien juste devant nous. En relâchant ses yeux, et en ayant ainsi les yeux détendus et en même temps ce que l'on nomme un regard ouvert ou un regard panoramique. Si vous laissez vos yeux détendus dans l'espace sans fixer quelque chose de précis, vous avez naturellement une vision large que l'on peut dire vision du panorama, c'est pour cela qu'on la nomme une vision panoramique. Il y a dans cette vision panoramique une ouverture du champ sensoriel, une ouverture du champ visuel, et de rester dans cette vision large, panoramique, en se laissant aller dedans,
en se détendant, en se relâchant, en se laissant partir en quelque sorte, et en laissant être tel que c'est, comme c'est. De rester au repos dans cet état de vision large, panoramique, les yeux détendus. On se laisse aller en cet état et on laisse être tel que c'est. Et d'observer comment c'est, comment est cet état. Bien. Et là aussi, si vous voulez bien, un petit retour d'expérience. Comment c'est ? Qu'observe-t-on ? Si tant est que l'on observe quelque chose. Le silence est bruyant.
Il y a beaucoup de choses à entendre. Il y a beaucoup de choses à entendre, en fait. On était en silence et il y avait énormément de choses à entendre.
Quand on a le champ visuel ouvert, on a aussi le champ auditif ouvert, c'est vrai. Et il y a une faculté à entendre sans écouter. Et comme on voit sans regarder. Oui. D'autres observations ou remarques, s'il vous plaît.
Barbara de Tours, qui dit dans les visions panoramiques, j'ai souvent la vue qui se brouille. Au début, j'ai paniqué, maintenant je laisse faire. Que faut-il faire?
Ce que vous faites, c'est-à-dire laisser faire. Donc, effectivement, lorsque l'on détend ses yeux, la vue peut se brouiller un peu, il peut y avoir toutes sortes d'expériences visuelles, même un peu même certaines fois, mais peu importe, l'air de brillance, on laisse faire, et simplement de se détendre dans cette expérience d'ouverture, et de laisser être. Donc au début, effectivement, on va se dire, oulala, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un petit... Mais on découvre qu'il n'y a pas lieu de paniquer, et au contraire, il y a des qualités à cet état que l'on découvre. Monsieur...
ce regard détendu et panoramique, on voit autour de votre tête et de vos épaules, les bras à bel aura, ainsi qu'autour de la tête et des épaules d'Arnaud.
Eh oui, on a une super aura. Et c'est très intéressant, c'est parce que nous sommes des êtres lumineux, des êtres de lumière, assurément. En fait, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui tripent sur les auras, si vous permettez. Mais lorsque l'on est dans cet état, effectivement, on voit autour des personnes ou autour des choses des, ce qu'on peut appeler une aura, un phénomène lumineux. Donc oui, mais ça vient de notre... ça vient de cet état. Et ça, en cet état, là, tout à l'heure, je disais, il peut y avoir des variations chromatiques ou des objets sombres peuvent apparaître détourés, ou si on regarde la crête de montagne, on voit aussi comme un flamboiement, ou si vous regardez un buisson, comme ça, il peut flamboyer. Ça fait toute une histoire. Il y a quelques millénaires. Ça s'est appelé buisson ardent. Donc, mais ce qui est important, c'est que les auras, entre guillemets, ou ce phénomène lumineux, est révélateur de l'état dans lequel on est. Ça n'est pas l'état de la personne ou de l'objet que vous contemplez ou que vous regardez, que vous voyez. Et donc, c'est pas, il n'y a pas ce... on pourrait se...
Oui, on pourrait se... Est-ce que ce n'est pas une énergie que vous dégagez, que les objets dégagent aussi, d'ailleurs?
C'est pas particulièrement une énergie... Alors, toute personne... Tout objet dégage une énergie, ne serait-ce que calorifique. Comme ça, je peux avoir des lunettes infrarouges, etc. Mais c'est caractéristique là, de l'état dans lequel on est. Et ça marche aussi bien, là, aussi bien sur des objets que sur des personnes. Pas tout à fait. Il y a certaines personnes qui, de par leur disons, présence ou quoi que ce soit, peuvent induire chez vous cet état. Et à ce moment-là, vous voyez l'aurora. Ce n'est pas l'aurora que vous voyez, c'est parce que vous avez, dans la relation à cette personne, vous êtes mis dans cet état, et à ce moment-là, vous le voyez.
J'ai vu cet été sur un arbre magnifique qui était peut-être à 200 mètres de moi, 150 mètres, où je le fixais comme je fixais tout à l'heure le mur au-dessus de vous, et j'ai vu une aura faible. Je pense que ça vient de la personne ou de l'objet, c'est l'énergie des gens. Pourquoi ça viendrait de moi alors que c'est là, quoi?
Alors, c'est une bonne question, mais il y a beaucoup de choses que l'on voit là-bas qui viennent de soi. Ça s'appelle habituellement des projections. Et là, ça n'est pas à proprement parler une projection, mais c'est un... Alors, comment ça s'interpréterait? C'est quelque chose de l'ordre de la neurophysiologie, de la vision. Il y a beaucoup d'expériences comme ça. Vous pouvez aussi avoir des expériences, des choses psychédéliques. Des variations de contraste ou des choses comme ça. C'est caractéristique d'un état d'ouverture détendue. Madame ?
Voilà, je voulais simplement m'exprimer un petit peu parce que je ne suis pas tellement d'accord avec vous quant à ce qui qui concerne l'aura, parce que quand on touche un corps, parce que si on est dans un, par exemple dans de l'ostéopathie ou autre, quand on fait des massages, tout ce qu'on veut, on peut, certaines personnes peuvent voir se manifester un aura de couleurs différentes en fonction de l'état de la personne. Et par exemple, si on peut avoir la chance à ce moment-là de voir une couleur verte, on peut voir quand la personne va un petit peu mieux, un vert de plus en plus lumineux et qui grandit de plus en plus. Voilà, c'est un exemple de ce que l'on peut voir au niveau de l'aura qui se dégage de la personne, ce que la personne aimait à lui.
Si ça vous fait plaisir, moi ça me... Je suis incrédule, savez-vous. Je suis incrédule. Je maintiens. C'est ce que vous voyez de la personne.
Oui.
Oui, c'est vous.
On voit de la personne.
C'est ce que vous voyez de la personne. C'est pas la personne elle-même qui a un rayonnement spécifique. C'est ce que vous voyez de la personne. Bon, vous savez, si ça fait plaisir de croire aux auras, moi ça ne me dérange pas, mais je serais plus scientifique que sur ce point-là. Monsieur ?
J'ai fait un peu de yoga et la première expérience où j'ai retrouvé exactement les mêmes sensations. Et par rapport à ce qui a été dit, ce qui me questionne, ce qui me questionnait déjà d'abord, c'était toujours de dire « ne penser à rien ». Or, ne penser à rien me paraissait toujours impossible. Ça me paraît toujours impossible aussi. Alors, c'est pourquoi la fixation sur le souffle, notamment en yoga, où on arrive à la respiration carrée, paraissait un exercice intéressant, fait que ça déplaçait cette question un peu délicate du penser à rien vers une pratique corporelle qui très concrète, qui permettait de dégager de l'esprit des pensées intrusives, comment on peut dire, et sur l'exercice que vous venez nous faire pratiquer, je pense par rapport aux pathologies, notamment ce qu'il en est des acouphènes, des phosphènes, et il semble que quand on est dans ces formes d'expérience, ces genres de phénomènes peuvent arriver non pas par présence, mais par sensation pathologique.
On a naturellement des acouphènes, non, soit plus ou moins, et dans un état de présence ouverte, ainsi, on peut effectivement être plus sensible aux acouphènes et aussi faire l'expérience de différents types de phosphènes. Il y a beaucoup d'expériences de ce que l'on nomme clarté. C'est le terme technique, des expériences de clarté. Clarté de l'ambiance, de l'environnement, clarté du type des auras, tel que l'on vient de dire, clarté avec certaines variations chromatiques, clarté aussi avec des phosphènes. Alors, c'est comme une sorte de libération du souffle, du souffle énergie. Là, en termes contemporains, ça pourrait se discuter, c'est de la neurophysiologie. Je ne sais pas, jamais étudié le sujet, mais je ne sais pas si mes collègues, si Arnaud aurait quelque chose sur le sujet. Mais en tout cas, c'est une expérience que l'on connaît bien dans le yoga et dans la pratique méditative. Il y a des phosphènes, différents types de phosphènes qui sont d'ailleurs caractéristiques de cet état de présence et d'une certaine libération des souffles en cet état. Monsieur ?
Je vais vous demander votre avis sur
un phénomène auquel j'ai assisté, j'ai assisté à des séances dites de Qigong dynamique, où au cours de méditation, les gens se livraient, tout d'un coup se lâchaient complètement, se mettaient à se rouler par terre, ou pousser complètement, ou pleurer, ou courir à toute vitesse en arrière, ou sauter sur place. Et alors, moi-même, je n'ai pas réussi à me trouver dans cet état-là, et je me suis trouvé un peu comme quelqu'un qui assistait à différents zoos, et c'est assez curieux. Et notamment, il y avait l'expérience du cri primal, je ne sais pas du tout à quoi attribuer ce genre de choses, si c'est des exercices d'hystérie collective. Mais chacun réagissait à sa façon. Hein. Il était habitué à cette. Alors bon, on dit, bon bah c'est parce que tu n'as pas l'habitude, il faut que tu reviennes, etc. Moi, je voulais savoir si la méditation pouvait arriver à libérer en quelque sorte des pulsions, très curieuses.
Oui, c'est délicat. Il y a dans la pleine présence une forme de libération psycho-émotionnelle. Tout à l'heure, je disais aussi d'anamnèse ou de réminiscence et éventuellement de libération, voire d'expression de choses qui ont été réprimées ou refoulées. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes ainsi authentiques, mais qui ne sont pas particulièrement de l'ordre de ce que vous avez, de ce dont vous avez été témoin. On peut se conditionner dans toutes sortes de choses. Si vous êtes Quaker, vous allez vous mettre à trembler. Si on vous parle de l'éveil de la Kundalini, vous allez avoir des petits trucs au bas du dos, des petits frémissements qui montent dans la colonne, etc. Si vous êtes un mystique chrétien, vous pouvez arriver à avoir des stigmates, etc., etc. On peut, dans tout l'esprit, a un pouvoir de conditionnement absolument incroyable. Et vous pouvez, pour devenir un sujet OK, un bon sujet dans n'importe quelle discipline, réussir inconsciemment à vous conditionner pour manifester les symptômes qui sont attendus de vous. Donc si on vous dit tu vas faire à faire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Et à contrario, c'est subtil. Il y a aussi une façon de, c'est une pratique traditionnelle, de se laisser aller complètement, de suivre une émotion, de suivre un sentiment et de l'exprimer en rentrant complètement dedans. Et là, ça a une valeur de libération psycho-émotionnelle réelle. Donc, c'est subtil. Mais entre ce qui est induit et ce qui est naturel, la différence est très délicate.
Je voulais dire quelques mots finalement à ce sujet et aux autres sujets, en revenant dans ce qui est finalement l'intégration de toute cette technicité, si vous m'autorisez le terme. De la pleine présence au sein de l'approche psychothérapeutique et au service des pathologies, que ce soit des psychopathologies ou que ce soit de pathologies telles que les acouphènes qui font partie du champ, pas forcément de la psychopathologie, de la psychiatrie. Dans l'histoire de la psychothérapie la plus proche de mindfulness, il y a eu les thérapies comportementales. Et un terme qui a été récurrent dans notre langage, c'est celui de conditionnement. On est conditionné à certaines choses. Les conditionnements peuvent être inadaptés. Donc étant inadaptés, ils sont inadaptatifs. Et la thérapie comportementale avait pour mission de reconditionner correctement. Première vague. Deuxième vague, une thérapie cognitive. Et finalement, on est monté d'un niveau, on est passé du niveau stimulus-réponse à un niveau supérieur, supposant qu'il y avait quelque chose entre le stimulus et la réponse. Plein de termes ont pu être trouvés, la boîte, le système de traitement de l'information, bref. Et à ce moment-là, on s'est dit que par rapport à ce stimulus et à cette réponse, il y avait entre-temps tout un traitement de l'information. Alors, on perçoit quelque chose, on en fait quelque chose, on le raccroche à ce qu'on a en mémoire, on l'enrichit des expériences nouvelles, et puis il vient alimenter un certain nombre de croyances qui peuvent être dysfonctionnelles. Donc, le comportement est à nouveau dysfonctionnel, et donc inadapté et inadaptatif. Et arrive, alors après, il y a une espèce d'union qui fait la thérapie et cognitive et comportementale et cognitive, mais arrive un tournant avec la troisième vague. Et la troisième vague, elle est symbolisée par tout le travail qui a été fait dans le domaine de la pleine présence et de la mindfulness. Et c'est là qu'on a un point de discrimination entre ce qu'était la thérapie cognitive et comportementale qui s'intéresse à la fois au corps, aux sensations, mais aussi aux pensées, et d'autre part, la mindfulness qui va s'intéresser au corps, aux sensations et aux pensées, c'est qu'il y a un principe d'intervention sur la pensée dans la thérapie cognitive ou comportementale, alors qu'on va être dans un principe de non-intervention. Et on est dans cette idée qui se retrouve dans ces expérimentations, parce que c'est un objet d'expérimentation, la mindfulness, me semble-t-il, c'est que les choses se passent sans jugement, sans focalisation. Quand est évoqué le fait que le silence est bruyant, peut-être avez-vous remarqué, dans ce qu'on pensait être le silence, un bruit de fond, qui est par exemple le bruit d'une climatisation, qui peut être le bruit d'un disque dur d'ordinateur, qui est pourtant quelque chose de pas extrêmement bruyant en termes de décibels, mais qui là prend une ampleur. Et certains vous disent que si ils avaient été amenés directement dans cette situation sans avoir pratiqué la descente progressive dans ce relâchement et dans ce non-jugement, ils vous disent ben, finalement, ce bruit de climatisation que j'ai identifié en me disant je suis capable d'entendre quelque chose d'habitude peu perceptible, vous direz ben, non, pour moi, finalement, si j'avais été directement confronté à ça, je n'aurais pas dit que c'était la ventilation, la climatisation, j'aurais dit que c'est un train qui passe, une voiture, tellement ça me semblait important. On voit là aussi la modification de la perception. Et pour moi, cela tient en fait, c'est que nous sommes des êtres sensitifs, perceptifs, mais nous sommes aussi des êtres cognitifs. Amusez-vous à regarder le premier mot qui vous est accessible. Le premier mot qui vous est accessible dans cet environnement, dans votre environnement, sur des notes que vous avez prises, le premier mot qui vous est accessible sur cette petite bouteille d'eau, ok. Alors, on ne voit pas forcément bien parce qu'il est un peu loin, mais on peut deviner ce que c'est. Mais imaginons que vous puissiez le lire, et je vous dis, ne lisez pas ce mot.
C'est trop tard,
c'est fait. D'accord. C'est bien une représentation de ce que je vous disais. Nous sommes des êtres perceptifs, mais la cognition, qui est extrêmement liée, s'en est emparée et a traité l'information. Et c'est finalement ce qui est mis en place dans le cadre des stratégies thérapeutiques, c'est un moment d'être capable de désengager, de défocaliser, de décentrer. C'est ce qui fait que ce qu'on pensait être un point précis du mur devient quelque chose de beaucoup plus flou. C'est ce qui fait que ce qui était un son extrêmement précis sur lequel on était focalisé conduit à une certaine libération qui permet d'entendre d'autres sons, de les entendre différemment avec une modification de la perception. Et le fait que l'on puisse rapporter des perceptions qui paraissent atypiques tout simplement parce qu'elles ne sont pas partagées pour tous, donc très personnelles, je suis tout à fait d'accord avec ce point que ça vient de soi, parce qu'à un moment, on a aussi libéré ce qui était notre concentration, notre focalisation, on fonctionne avec des filtres attentionnels, sinon, effectivement, on serait assailli et migraineux en permanence tellement il y a de stimulation autour de nous, même dans une salle relativement calme. On l'a vu avec la clim qui peut déranger, par exemple. Et à ce moment-là, on va peut-être pouvoir avoir des choses qui remontent, qui sont des sensations, des croyances, des projections. Et je terminerai en disant que dans un, dans un champ de la psychothérapie, en fait, un psychothérapeute s'est intéressé à la pratique de la pleine conscience et de la pleine présence comme une première étape pour ensuite éventuellement faire remonter des souvenirs, ce qui était dit sur cette libération psycho-émotionnelle, et qui peut faire remonter des souvenirs réels, mais aussi des souvenirs plus fantasmés, des traumatismes très clairs parce que identifiés de manière épisodique, il m'est arrivé ça il y a 2 ans à tel endroit, bon, ou des choses beaucoup plus floues parce que ça remonte et qu'on n'a pas une capacité d'enregistrement tel un graveur de DVD. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, c'est un des éléments clés. Et dans le cadre, par exemple, des acouphènes, c'est vrai que à partir du moment où il va y avoir une focalisation sur cette perturbation que représente l'acouphène, il y a fort à parier que la focalisation va être de plus en plus intense, on ne va plus entendre que l'acouphène, et comme il y a des acouphènes qui fonctionnent de manière un peu en dents de scie, ça va se calmer, mais dès qu'il va y avoir un petit pic, paf, l'attention va se focaliser, le filtre est là pour dire « attention, mince, voilà encore une série d'acouphènes », et ça va aider à mieux les vivre. Et j'ai été agréablement surpris de rencontrer un jour un patient qui ne trouvait pas de stratégie pharmacologique par rapport à ça, qui avait essayé pas mal de traitements proposés dans le champ de la perception, enfin qui devait l'accompagner dans sa perception, traitement distribué notamment dans le champ de la neurologie, et qui y était résistant. Donc, pour lui, une des dernières stratégies thérapeutiques, c'était celle d'une opération neurochirurgicale avec éventuellement des poses d'implants, etc. Donc, on commençait à rentrer dans quelque chose d'assez lourd. Et il me racontait que sa femme lui a dit « Écoute, commence déjà par te détendre. » Elle l'a inscrit à un cours de relaxation qui, en fait, lui permettait de ne pas focaliser sur ses sensations. On est dans un trait partagé, un tronc commun avec ce que propose la pleine présence. Et c'est quelqu'un qui a significativement réduit l'inconfort et qui s'est trouvé donc sorti de cette voie neurochirurgicale qui était la sienne. Si elle est nécessaire, bien entendu, hein, il s'agit de traiter le souci, mais on voit aussi qu'on peut déjà, par ces conditionnements, par ces troubles dans notre fonctionnement, le fait de se focaliser sur la mauvaise chose au mauvais moment et de manière répétée, parce qu'on identifie ça comme une menace, comme un danger. Et bien déjà, le fait de travailler là-dessus, avec une réappropriation de soi, de ses sensations, de son corps, et donc ainsi de ses cognitions, la pensée, la croyance, l'opinion, le jugement, on peut déjà faire un grand pas. Et la première manière, à mon avis, de réapproprier le jugement, c'est d'apprendre à ne pas juger. Et c'est là aussi tout un débat philosophique. Est-ce que penser à rien, c'est vraiment penser à rien, ou c'est penser à quelque chose qui est sur rien ? Bon. Finalement, sans même rentrer là-dedans, c'est, je pense que ce que l'on propose avec cette stratégie de mindfulness, ce que vous en avez rapporté dans vos retours d'expérience, c'est le fait de pouvoir se désengager et être ouvert. Et lorsque nous étions vus lors d'une rencontre sur la confrontation entre les traditions orientales, occidentales, spéculatives, et opérative, et que nous avions pu discuter de ce qui était de l'ordre du traditionnel et du réapproprié peut-être plus par le culturel, nous avons évoqué pas mal de choses, et je me souviens de quelqu'un qui disait « Moi, j'arrive vraiment à ne rien ressentir. » Et était-ce une mindfulness ou une mindfulness ? Est-ce de la pleine présence ou de la pleine absence ? Voilà. Mais, alors, on serait les spécialistes en débattre, mais je pense que le fait à un moment, même si la personne dit ne rien ressentir, être dans le vide, dans l'absence de ressenti, c'est déjà une perception en soi. C'est déjà un ressenti en soi, qu'il y a eu un changement, une modification. Et je voulais vous dire aussi, parce que peut-être l'avez-vous vu, il y a eu un reportage qui est passé hier sur France 3, le terme échappe, mais c'était sur l'adolescence et la pédopsychiatrie. Et plusieurs cas de figure ont été présentés, et notamment la thématique de l'anorexie mentale a été évoquée. Et ils ont interviewé des personnes, je dirais bien connues de ce domaine, Marcel Ruffaut, Marie Rosemoreau, Bernard Goltz, et ils étaient à la Maison de Solène, à l'hôpital Cochin, qui est l'endroit où je travaille depuis peu. Et si vous avez vu, vous êtes amené à regarder ce reportage, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est le rapport au corps, à la perception de soi et toute la cognition qui est construite autour de ça. Et je vous invite à le regarder parce que c'est assez intéressant, notamment au moment de l'interprétation qu'en fait Marcel Ruffaut. Sachez qu'aujourd'hui, dans ce trouble de l'appropriation de son corps, de ses sensations et qui va vers un désordre du schéma corporel, les stratégies basées sur le mindfulness semblent particulièrement efficientes. Voilà. Et on espère à terme peut-être pouvoir généraliser ça, parce qu'on a un moyen d'action assez rapide. Et à partir du moment où la personne est capable d'avoir son attention focalisée sur son souffle, et puis sur ses pieds ancrés au sol, et puis sur une sensation de chaleur qui se diffuse en elle, et puis sur cette climatisation qui décidément vient perturber le silence, et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que ce filtre attentionnel qui vous permet de fixer un point avec précision se déplace. Et ce déplacement de l'attention, c'est un phénomène qu'on appelle la flexibilité mentale. Et on s'est rendu compte dans certaines pathologies, comme l'anorexie mentale, comme certaines formes d'autisme, comme certaines formes de schizophrénie et de dépression, qu'il y avait une difficulté à la flexibilité mentale. Donc la difficulté à la flexibilité, c'est souvent une rigidité. Eh bien, ce qui est, moi je trouve tout à fait formidable, et on commence à comprendre les bases neuronales, c'est que on arrive à avoir un transfert d'une compétence acquise dans un exercice à un autre domaine. C'est-à-dire que le fait de transposer son attention, son filtre, de sa respiration, à sa vision, à son audition, et puis y revenir, et puis encore s'en extirper pour aller se focaliser sur autre chose, et puis sur rien du tout, et puis revenir sur autre chose. Plus la personne pratique, plus elle parvient à le mettre en œuvre. Elle arrive à plus rapidement se connecter avec des sensations, des perceptions. Donc on voit que déjà, plus on pratique, mieux c'est. Mieux on arrive à ressentir les choses. Et plus elle le fait, moins la personne se retrouve dans ses ruminations, se retrouve bloquée par ce manque de flexibilité sur ce qui va en permanence rendre ses comportements inadaptés. Et le fait de réussir à gagner de la flexibilité sur cet exercice de type pleine présence se transfère dans d'autres situations de la vie. C'est-à-dire être plus flexible, moins rigide dans son rapport aux autres. Je pense que là, on voit aussi un clin d'œil à ce que vous évoquiez sur les aspects de bienveillance, d'empathie et d'une certaine bonté que l'on peut retrouver dans ce cas de figure.
Très très bien, mais je vois Jean-Claude qui s'approche d'autant que la tourne. Et pour continuer, alors s'il vous plaît, comment faire ?
Pour continuer, coacher comment faire, je peux prendre une image traditionnelle si vous le permettez. Commencez par ne pas réfléchir à un éléphant blanc.
Rose.
Ça, c'est une autre thématique.
Rose. Ceci étant dit, concrètement, nous essayons sur Reims de mettre en place des groupes. Il y a déjà deux qui ont fonctionné. Le prochain fonctionnera à partir de la dernière semaine de janvier. Je vous laisse prendre la documentation. Ce qui est important pour conclure, si vous voulez, c'est que les études ont montré que les effets, puisque c'est quand même le thème de notre soirée, les effets apparaissaient à partir d'au moins une vingtaine de minutes de pratique journalière. Mais quand on dit une vingtaine de minutes de pratique journalière, ça peut être parfois très surprenant. Par exemple, porter toute son attention aux quelques minutes où vous vous lavez les dents. Ou simplement, tout à l'heure, vous allez rentrer et essayez d'être totalement présent à la première gorgée de liquide que vous allez prendre, quel que soit ce liquide.
Pour certains, avec modération, pour d'autres. Et 20 minutes de pratique, c'est 20 minutes où on porte effectivement son attention, parfois la durée d'un feu rouge, mais porter son attention sur cet instant, au lieu de se mettre à tempêter après le feu qui vient juste de passer au rouge au moment où on allait le traverser, et bien se dire « Ah, c'est une chance. J'ai là une ou deux minutes pour être à moi. Là, maintenant, ici. Et j'en profite. » Et voilà, les 20 minutes s'accumulent. Puis après, on peut rentrer dans des exercices plus spécifiques. Et une des dimensions sur lesquelles je pourrais apporter encore un éclairage pour conclure, c'est que la première des choses, c'est en écoutant ce que les personnes qui découvrent ces techniques, c'est d'abord le renforcement de la confiance en soi. Et cette confiance en soi permet, après, d'affronter parfois effectivement des réminiscences qui peuvent, dans la pratique, revenir comme ça parce qu'on s'est détendu, parce qu'on a lâché les prises. Et on n'a plus peur d'affronter. L'expérience acquise dans la répétition permet effectivement d'être plus confiant dans ce qui peut surgir, dans ce que notre cerveau est capable de produire. Et de le regarder sans jugement, sans choix, sans désir. Mais le retour. Le dernier mot, et vous conclure.
Merci beaucoup et bonne soirée à tous.